Bonjour et bienvenue sur La Madeleine, le podcast des émotions sucrées. Je suis Marion Tilloux, votre guide dans ce voyage gustatif où chaque bouchée raconte une histoire. Créatrice de la pâtissologie et fondatrice d'Honorez-vous Guide, je vous invite à découvrir avec moi comment un simple morceau de gâteau peut éveiller des souvenirs d'enfance, révéler des passions insoupçonnées et même définir notre identité gourmande. Dans chaque épisode, enregistré en face à face pour capturer l'authenticité de l'instant, je partage avec vous les anecdotes les plus savoureuses de mes invités, leurs desserts préférés et ce moment précis où le sucré rencontre le souvenir. Et parce que chaque rencontre est unique, une surprise attend toujours ceux qui me font l'honneur de leur présence. Si vous aimez plonger dans ces récits sucrés et vous laisser transporter par les émotions, montrez votre soutien. Abonnez-vous, laissez-nous un avis et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et pour accéder à des contenus exclusifs, abonnez-vous à la newsletter sur honorezvousguide.fr. Préparez vos papilles, ajustez votre casque et plongeons ensemble dans la Madeleine. Bonne écoute! On dit souvent que des contraintes naît la créativité. Cet adage prend tout son sens avec l'histoire d'Andrea Rocagel. Touchée par des problèmes de santé, elle a dû s'adapter, réinventer son alimentation, à une période où il y avait peu d'alternatives connues en France. Et comme pour bon nombre de mes invités, les moments passés avec sa grand-mère ont été fondateurs et le terreau d'une créativité qu'elle a développée au fur et à mesure. Notre conversation a été paisible et très inspirante, à l'image d'Andrea. Bonne écoute. Hello Andrea.
Hello.
Tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Ouais, très bien. Écoute, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Alors, je resitue toujours un petit peu parfois le timing. On est finalement à l'approche des fêtes de Noël, donc avec beaucoup d'activités en fin d'année pour, j'imagine, une entreprise comme toi. Ma première question, très traditionnelle hein, pour un podcast, c'est de commencer par te demander de te présenter, comme tu le souhaites, ton parcours. Qui es-tu ?
Avec grand plaisir. Alors, donc je suis la fondatrice de Luna Création, qui est une marque de pâtisserie à la fois végétale, naturellement sans gluten, sans cuisson. On est vraiment sur un nouveau produit que j'ai créé, qu'on appelle des lunes, sur l'idée du monoproduit. Et ça fait maintenant 3 ans que je fais ça, que j'ai lancé cette entreprise. Moi, à la base, je ne viens pas du monde de la pâtisserie. J'ai fait les beaux-arts. J'ai toujours voulu faire les beaux-arts. J'ai travaillé aussi dans la scénographie, dans l'événementiel, donc le stylisme, en gros. Et voilà, la vie m'a menée petit à petit à aller dans la pâtisserie. Aujourd'hui, c'est vraiment mon métier.
Et alors, est-ce que tu peux justement m'expliquer comment la vie t'a emmené des beaux-arts, de l'esthétique, à du coup créer ces petites lunes délicieuses?
En fait, on peut penser de l'extérieur que c'est très atypique, ça n'a pas forcément de sens, mon parcours, alors qu'il fait vraiment sens, en fait. Aujourd'hui, tout s'aligne et tout ce que j'ai fait me sert dans Luna. En gros, voilà, moi j'ai toujours voulu faire les beaux-arts depuis que j'ai 10 ans. J'avais dit que je ferais les beaux-arts, donc je suis vraiment créative dans l'âme depuis toujours. Ce que j'ai fait, donc j'ai vraiment fait ce parcours classique. Quand j'ai eu 18 ans, je suis tombée malade en fait, tout simplement. J'ai eu des symptômes, je suis rentrée dans une errance médicale, comme on l'appelle aujourd'hui, où on ne trouvait pas ce que j'avais. J'avais plein de symptômes, j'avais beaucoup de... Voilà, qui devenait de plus en plus handicapant. On ne trouvait pas ce que j'avais. J'ai rencontré un jour un médecin qui m'a diagnostiqué, alors c'était pas la réponse à tous mes problèmes, mais il m'a diagnostiqué de manière claire et nette une trentaine d'intolérances et d'allergies alimentaires. Donc ça devait être vers mes 20 ans. Et ce qui a complètement bouleversé, en fait, alors déjà d'être malade, ça bouleverse son rapport au corps, surtout quand on est assez jeune, et ce diagnostic parmi d'autres a bouleversé mon rapport aussi à l'alimentation. Donc, j'ai dû complètement changer mes habitudes alimentaires, là où je n'étais pas spécialement...
Oui, c'est un âge où on ne pouvait pas spécialement attention.
Oui, voilà, je ne mangeais pas à McDo tous les jours, mais je ne faisais pas forcément attention à ça. Et du jour au lendemain, je devais tout regarder parce que parmi cette liste-là, il y avait les grands classiques hein, dont on parle aujourd'hui. À l'époque, on n'en parlait pas, mais ça va être le gluten, les produits laitiers, j'avais les œufs. Après, j'avais les tomates, les abricots, enfin, j'avais un petit peu de tout. Mais j'avais notamment les fondements aujourd'hui de notre alimentation. Et c'est là où je me suis rendu compte, d'ailleurs, notamment que c'était les fondements, notamment le gluten, hein, qu'on retrouve un peu partout. Ce que je ne savais pas à l'époque. Donc, j'ai dû en fait réapprendre. Je n'ai pas été très accompagnée par les médecins pour m'adapter dans ce nouveau régime. Et j'ai dû manger différemment, m'éduquer toute seule.
Tu t'es documentée, seule
Ouais, ce qui était difficile, parce que là, je parle d'il y a plus de 10 ans.
Il y avait des ressources, mais peut-être pas aussi organisées. Il n'y avait pas rien
Quasiment rien.
En France, du coup.
En France.
Parce que j'imagine peut-être qu'aux États-Unis.
Oui, dans pas mal de pays, effectivement, c'est des sujets qui étaient déjà abordés, sans que ça soit d'ailleurs autour des intolérances nécessairement. C'est juste que il y avait des options végétales un peu partout. Si on parle des États-Unis, l'Angleterre, c'est des sujets qui sont beaucoup plus communs. Ouais. En France, pas du tout aussi, parce qu'il y a une culture culinaire assez forte qui sont basées sur ces produits. Donc c'est pas des sujets qu'on abordait. Donc non, il y avait rien. J'ai trouvé un bouquin un jour que j'aime bien citer parce qu'il m'a sauvé la vie. De Valérie Cupillard, qui était sans œufs, sans lait, sans gluten. Je trouve que c'était ça le titre. Et ça a été une petite révélation, parce que je me suis dit qu'on pouvait faire différemment. Donc c'est comme ça, en tout cas, que c'est via ce parcours personnel et ces difficultés que j'ai été introduite à cet univers du végétal, de la pâtisserie particulièrement, parce que je suis une amoureuse de la pâtisserie. Depuis toujours, autant le salé me titille pas spécialement, autant le sucré, ça me parle. Je suis bouche sucrée, du coup j'ai appris, et justement la pâtisserie, ça c'est assez compliqué.
Là c'était rempli de toutes les choses que tu ne pouvais plus manger.
Et c'est beaucoup plus complexe, parce qu'autant le salé, on peut trouver des alternatives facilement sans trop se creuser la tête, autant la pâtisserie, on parle de chimie, donc du jour au lendemain, il fallait trouver comment... trouver des alternatives pour pouvoir faire un gâteau qui se tient, qui a de la saveur. C'est un peu le début du parcours de Luna, c'est ce diagnostic. Et j'ai fait mes études et en fait, je suis partie en voyage à Hong Kong à la fin de ma première licence. Et là-bas, encore une fois, c'est très développé, une ville très internationale, très cosmopolite, où on trouve beaucoup d'options, beaucoup de choses. Et quand je suis arrivée là-bas, moi, j'avais mes petites bases de pâtisserie que je pouvais faire à la maison. J'avais réappris à m'alimenter avec mes restrictions. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire pas mal de choses là-bas. Il y a beaucoup de restaurants vegan, beaucoup de choses alternatives. C'est beaucoup plus ouvert au niveau culinaire. Et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire. Et j'ai réussi, c'est une longue histoire, mais j'ai réussi à décrocher un travail là-bas en tant que chef pâtissière pour un restaurant qui ouvrait.
Mais du coup, sans bagage dans le domaine.
Non, absolument pas. En fait, je vais juste partir en vacances et puis avec cette folie, cette énergie de me dire je pourrais vraiment faire quelque chose d'intéressant à la pâtisserie. J'y suis allée au culot. J'ai rencontré un entrepreneur qui avait monté une chaîne de restaurants sur place, vegan, sans gluten, etc. Et j'y suis allée avec mes petits gâteaux que j'avais fait en me disant peut-être qu'il va me faire un retour en fait professionnel par rapport à ce que je fais. Et finalement, le contact s'est très bien passé. Et il m'a proposé. Disons qu'il a été audacieux et il m'a dit, il a vu mon énergie et s'est dit, peut-être qu'elle a l'envie et elle pourrait être une. C'est un pari, mais peut-être qu'elle pourrait rejoindre l'aventure, ce qu'il m'a proposé. Donc j'ai tout quitté parce que j'étais censée être en vacances, mais j'ai tout quitté pour rejoindre l'aventure. Je suis devenue chef pâtissière. Effectivement, sans base, ce qui fait que les premiers temps ont été compliqués. J'ai dû tout apprendre. On ne rentre pas dans une cuisine professionnelle comme ça. Mais c'est comme ça que l'aventure, une autre aventure dans ma vie a commencé. Et puis, je suis restée quelques années là-bas. Et j'ai construit ce que je fais aujourd'hui.
Et quand tu es revenue, du coup, c'est là que tu as lancé Luna.
Pas dans l'immédiat, non. Je suis rentrée au bout de 2 ans, 3 ans de cette aventure à Hong Kong où j'ai du coup développé, effectivement, j'ai participé à l'ouverture de ce restaurant. J'ai développé une gamme de gâteaux qui étaient végétaux, sans gluten et sans cuisson.
D'accord, donc plutôt dessert à l'assiette
Non, c'est parce qu'en fait, j'avais vraiment une petite vitrine. Donc, c'était plutôt du take-away.
D'accord,
c'était
la pâtisserie. Emporté.
Comme si, comme un peu pâtisserie.
Comme si c'était une boutique.
Ouais, exactement. D'accord. Les gens mangeaient aussi sur place, mais c'était plus des desserts. C'était des entremets, des tartes, des choses à emporter plutôt. J'avais une gamme assez large. Je pense qu'on avait une vingtaine de références. Donc, on faisait un peu de tout, vraiment. Tout type de dessert, du cookie aux muffins,
Mais avec, du coup, beaucoup de contraintes et en plus, pas de cuisson.
Et en plus, pas de cuisson. Ça, c'était un sacré challenge. Pour le coup, je m'attendais pas à ça. Mais c'était hyper intéressant. Du coup, j'ai découvert aussi le monde de la pâtisserie sans cuisson, qui a ses limites, mais qui est très intéressant. Et je suis revenue d'Hong Kong avec cette base-là, en me disant, et ça a eu du succès, pour le coup. C'était très long, très, très compliqué comme aventure. Parce que c'est la restauration, tout simplement. Je n'invente rien. Très intense. Je suis rentrée avec un burn-out, ce qui était attendu quand même par rapport au rythme et puis l'intensité de l'aventure qui, sur le papier, ne faisait aucun sens, mais un succès au final. Et je suis rentrée avec ça. Je ne savais pas quoi faire en France parce que justement, j'avais un bagage, j'avais une expérience, mais j'avais pas le diplôme qui confirmait cette expérience. Donc, on m'a pas vraiment ouvert les portes en France, dans le monde de la pâtisserie, avec ce que j'avais fait. Ça n'avait pas forcément de valeur. Mais je voulais abandonner la pâtisserie en rentrant en France. Je voyais pas le futur là-dedans. Et j'ai fait des rencontres qui m'ont confirmé que je devais continuer, qu'il y avait quelque chose à faire, et je le sentais. En fait, je sentais que ça allait venir, qu'il y avait quelque chose d'innovant, ce qui me plaisait. Et j'ai travaillé dans un restaurant pour me professionnaliser un peu plus. Pendant un an et demi, où j'ai été chef pâtissière aussi, j'ai développé des desserts.
Et toujours dans ce secteur.
Toujours dans ce secteur vraiment très spécifique, très niche, on pourrait penser, mais pas tant que ça.
De moins en moins finalement, il y a de gens qui s'intéressent.
De moins en moins. Et il faut l'aborder aussi d'une manière qui soit moins niche, ça c'est important. Et du coup, je me suis professionnalisée d'autant plus là-bas et j'ai lancé Luna dans la foulée. J'ai quitté ce poste et j'ai lancé Luna vraiment dans la foulée quand j'ai eu l'idée nette et claire de ce que j'allais faire pour mon projet. Voilà.
D'accord. Et alors, pour résumer, donc Luna, c'est des bouchées. Hein. On est entre le chocolat, finalement, enfin, la taille d'un chocolat et d'une pâtisserie que tu distribues dans différentes boutiques en France. Pas qu'à Paris, du coup.
Non, pas qu'à Paris.
Et sur ton site.
Ouais, c'est ça.
Bon, on mettra de toute façon toutes les infos dans les notes de l'épisode. Donc, c'est une intro qui permet de savoir un petit peu ton parcours. Aujourd'hui, tu continues de consommer, de t'alimenter de cette manière-là?
Non, j'ai réintroduit des choses dans mon alimentation il y a quelques années déjà. Mmh. En fait, j'ai eu ce régime très strict pendant environ 5 ans. Et puis, à un moment donné, voilà, j'ai réintégré quelques petites choses par-ci, par-là, parce que c'était vraiment très, 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 très restreint comme
régime.
Mais
ton corps te l'a accepté, en fait
Oui et non. Il y a certaines choses, je suis très allergique, donc ça,
tu pourras jamais les reprendre.
Et, voilà, je suis habituée. Il y a d'autres choses, c'est plus un inconfort. Mm. Donc, c'est vrai que j'ai pas pu tenir ce régime... trop handicapant au quotidien, même si j'allais dans un restaurant végétal, sans gluten, sans ci, sans ça, j'avais des difficultés parce que il y avait la tomate, il y avait l'abricot, il y avait le blanc d'œuf, c'était trop compliqué. Donc j'ai intégré des choses. Aujourd'hui, je sais que mon régime reste quand même très imprégné de cette alimentation. Donc c'est sûr que je vais faire naturellement attention peut-être au gluten parce que je sais que je réagis très rapidement. Donc, mais je suis moins rigide.
D'accord.
Sur le sujet.
Oui, c'est un équilibre à trouver avec ton ressenti derrière et le plaisir que tu peux avoir potentiellement à manger.
C'est ça,
ces
aussi parce
quoi.
Que j'ai eu des mauvaises expériences avec cette expérience de restriction très stricte. J'ai développé une peur de l'alimentation. Mm. J'avais peur de manger partout, j'avais peur de que ça me rende malade. Enfin, donc ça peut être vraiment un peu insidieux, mais de vraiment commencer à développer des phobies alimentaires. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc c'est pour ça que même aujourd'hui avec Luna, je suis très vigilante sur la manière dont je vais parler de mon produit. Je vais pas être sur on appelle ça guilt-free, sans culpabilité ou des choses comme ça. Je veux vraiment pas que ça soit perçu comme ça. Je veux vraiment rester sur la notion de gourmandise, etc. Enfin, de pas rentrer dans des dogmes parce que ça peut être assez dangereux aussi pour l'avoir vécu.
Oui, c'est vrai qu'on entend plus en plus parler de l'orthorexie et des gens qui veulent absolument contrôler tout ce qu'ils ingèrent et à s'en rendre malade, vraiment.
Exactement, donc, surtout dans une société actuellement où on sait malheureusement que dans l'industrie agroalimentaire, on met pas mal de choses pas très recommandées dans l'alimentation, des plats préparés, etc. Et du coup, on rentre aussi dans une peur. Et il faut faire attention à ça. Donc, c'est vraiment pas du tout mon but avec Luna. Je suis vigilante.
Et alors, c'est une question que je pose de manière rituelle à mes clients par rapport au fait qu'ils se définissent ou pas comme gourmandes. Donc, j'ai toujours plus ou moins une réponse en tête, mais je focaliserai un petit peu plus sur toi. Comment tu as réussi à... Enfin, si tu es bien gourmande, à garder ce côté gourmandise quand tu devais faire face à toutes ces restrictions. Est-ce que tu as réussi à être gourmande si tu l'es de base? Ce que je comprends.
Non, justement, pendant longtemps, j'ai complètement enlevé la notion de gourmandise de mon alimentation, surtout au début, quand j'ai eu le diagnostic. Le premier truc, malheureusement, que j'ai pas pu remplacer, c'est tout ce qui est sucré. Les gâteaux, les biscuits, les gâteaux d'anniversaire, je pouvais jamais manger ces choses-là. En tout cas, pour moi, quand je parle de gourmandise, c'est vraiment le sucré.
Ouais, tu l'associes au sucré.
Moi, je l'associe au sucré. Voilà, c'est vrai que je l'ai jamais associé du tout au salé. Je suis pas une amoureuse, je suis pas une foodie, je suis pas vraiment une amoureuse de l'alimentation en général, à part les gâteaux qui me déclenchent une émotion. Donc en fait, j'ai perdu justement toute la notion de gourmandise parce que tout était enrobé de peur. Et puis déjà aussi parce que je ne pouvais pas trouver d'alternative, en tout cas déjà faite. Ça s'est transformé justement quand j'ai trouvé ce livre dont je parlais, où j'ai vu que je pouvais faire des gâteaux sans toutes ces choses-là. Donc, ça a été vraiment une réconciliation avec la gourmandise. D'accord. À partir du moment où je suis rentrée en cuisine, enfin, dans ma cuisine, à moi, dans mon petit appartement, c'était, je peux cuisiner, ça va être moi-même. Du coup, c'est moi qui vais faire les choses. J'ai renoué avec cette notion de gourmandise, de futile aussi. J'aime bien cette notion de futilité où, oui, en soi, on n'a pas besoin de manger un cheesesteak pour vivre, mais c'est juste du plaisir. Mmh. Et c'est cette notion de plaisir qui me manquait, de partager aussi avec les autres, pouvoir amener des cookies, un dîner, ce que je faisais tout le temps avant, ce que je pouvais plus faire. Donc, j'ai vraiment renoué progressivement avec ça.
D'accord. Et c'était une partie importante pour ton équilibre
C'est ce qui a été le plus dur.
Quoi.
Exactement. C'est ce qui a été le plus dur les premières années.
Oui, de plus avoir...
Je ne vais jamais m'autoriser la petite touche sucrée, le petit plaisir, puis aussi la spontanéité. Mm. En fait, le sucré, moi, je le vois un peu, on se promène dans la rue un dimanche après-midi, on voit une boulangerie-pâtisserie où il y a une montagne de gâteaux et c'est spontané, on y va, on se prend une petite douceur. Et moi, ce n'était pas possible, en fait. Il y a aussi cette notion de spontanéité qui me manquait et qui est quand même la définition du sucré, du plaisir de l'après-midi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Et ça me manquerait beaucoup. Je ne peux pas imaginer ce que tu as dû vivre. Et du coup, pour les personnes qui seraient dans la même situation que toi, maintenant, c'est vrai que alors, tu apportes une solution. Et puis, vous êtes plusieurs acteurs aujourd'hui, heureusement, à travailler et à faire des choses bonnes, parce que il peut y avoir aussi des tas de gammes sans gluten qui sont pas terribles, donc c'est bien que tu gardes, c'est ce que tu dis, que tu gardes en tête le côté gourmandise, plaisir
et gourmand et bon. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, si ça aussi ça m'a beaucoup marqué, c'est que oui, j'ai un peu menti, je trouvais des alternatives, des petits biscuits, mais c'était les biscuits secs, au fond du magasin bio, aromatisés, je sais pas, au sésame, c'était des choses vraiment pas gourmandes et généralement mauvaises, enfin, faut le dire quand même, j'en ai goûté des choses, même à Hong Kong, par exemple, il y avait quand même pas mal de restos qui faisaient l'option, le cookie sans gluten, etc., c'était pas bon, faut le dire. Et aujourd'hui, je le vois très bien avec nos clients, à qui je peux dire, c'est végétal, c'est sans gluten, d'ailleurs, j'ai arrêté de le dire, ça bloque. Donc vraiment, ça peut faire un blocage pour certaines personnes qui s'attendent à manger quelque chose de pas bon. Et je suis obligée de leur donner raison, que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas savoureuses, où on oublie la gourmandise et le bon goût, en fait. Mmh. Et c'est vraiment l'opposé que j'essaye de faire avec Luna, c'est le goût avant tout, et c'est limite accessoire, en fait. C'est végétal. Voilà, je cherche vraiment à faire un produit bon avant tout. Mais je comprends complètement les critiques quand on me dit, ah non, ça va être ça, ça va être lourd, ça va...
Les gens ont un a priori qui les conditionne, quoi. Donc, biais...
Je le comprends.
Mais bon, on est là pour les inciter à goûter autre chose.
C'est ça.
Alors, je ne sais pas si à la base, tu es quelqu'un de curieuse, mais j'imagine que tu as dû l'être pour du coup trouver des solutions. Est-ce que déjà, tu étais quelqu'un de plutôt aventureuse, gastronomiquement parlant ?
Non. Enfin, pas à la base, pas vraiment. Moi, je faisais beaucoup de pâtisserie, donc avec ma grand-mère quand j'étais petite, c'est elle qui m'a transmis ça.
Les grand-mères, il y a quelque chose. Hein. Bah, ça revient toujours.
Ouais, c'est vraiment. Mais vraiment, pour le coup, j'ai été cette petite
fille. C'est la réalité.
Cuisinais avec sa grand-mère chaque été parce que je passais 2 mois chez elle en été, et c'est elle qui m'a transmis ça. Mais c'était vraiment des recettes très classiques. On suivait la recette et puis des desserts très classiques français. Et donc, j'ai jamais spécialement eu un goût de l'aventure dans l'alimentaire. Je pense que ça s'est développé naturellement quand j'ai dû découvrir déjà d'autres ingrédients. Parce qu'il faut être, curieux, de toute façon, quand on s'aventure là-dedans, de comprendre qu'en fait, la banane ou les graines de chia, ça peut remplacer des œufs, que forcément, ça ouvre un petit peu l'esprit et ça change un peu sa perception de la pâtisserie. Et c'est surtout Hong Kong, pour le coup, qui m'a aussi vraiment ouvert l'esprit sur d'autres ingrédients. Parce que déjà, il y a d'autres ingrédients, tout simplement, en Chine.
Oui, j'imagine que dans un autre pays, de toute façon, t'as pas trop le choix d'être curieuse.
Exactement, puis de découvrir des choses qu'on connaît pas forcément. Et ça m'a vraiment aidée à avoir une réelle ouverture d'esprit dans toutes les recettes ou créations que j'allais aborder, et d'être audacieux, quoi, en fait. Par exemple, moi, la découverte à Hong Kong, c'était le sésame noir, par exemple, alors qu'il commence à vraiment arriver ici, les glaces de sésame noir, tout ça, on commence à connaître. À l'époque, pas tant que ça en France.
Oui, et puis le noir, c'est pas une couleur.
Le noir,
très...
bah voilà, c'est pas censé être alimentaire. Le bleu, c'est pas non plus être censé alimentaire. Oui. Aujourd'hui, nous, on fait des lunes bleues, c'est notre best-seller. Mm. Parce que du coup, aussi, j'ai abordé un métier où je n'avais strictement aucune base. J'avais pas le parcours militaire qu'on a en pâtisserie ou en cuisine, où on doit suivre des schémas. On a aussi, voilà, des modes de pensée qui nous ont inculqués à l'école. Moi, j'avais pas ça non plus. Donc, c'est vrai que. Ça m'a fait défaut, mais ça a été aussi un avantage dans certaines occasions où, bah justement, je pense qu'il y a très peu de pâtissiers qui font des pâtisseries en bleu,
oui,
parce qu'on leur a dit, de toute façon, que le bleu, ça donnait pas envie, etc. Moi, j'adore le bleu. Moi, je pense aux pâtisseries comme de la peinture, etc. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, je m'autorise plus de choses, je pense, via ce parcours-là. Et aujourd'hui, du coup, je suis très, très audacieuse. Enfin, je cherche à être le plus possible audacieuse, de chercher des ingrédients salés, enfin, destiné à être salé, à les intégrer dans ma pâtisserie, etc. Et ça marche bien, et puis j'aime bien travailler comme ça aujourd'hui.
Et comme déjà, je laisserai les gens aller regarder sur ton site à quoi ressemble une lune, mais comme déjà, c'est quelque chose qui ressemble à rien d'autre, en fait. Ça ressemble pas à un macaron, ça ressemble pas à un chocolat, ça ressemble pas... Du coup, j'aurais envie de dire que d'emblée, on va être un peu plus ouvert déjà sur ce à quoi on s'attend, et si on découpe, et que c'est... Enfin, ou si c'est même bleu de prime abord, on va peut-être moins se mettre des barrières sur la nature. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et quand on les voit, on se dit juste... Enfin, on est surtout attiré, en fait, et curieux de savoir ce qu'il peut bien y avoir dans ces... Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment aller les goûter. Parce que moi, je suis une vraie... Bon, petit spoiler, mais je suis une vraie, vraie... Dès que j'en vois dans un salon de thé ou dans un magasin, j'en prends un parce qu'en plus, je trouve que c'est le format parfait de... Non, tu parlais de guilt-free, mais il y a aussi ce côté d'une bouchée où on se dit, je peux... C'est pas un énorme gâteau et c'est quand même gourmand parce que c'est pas juste un minuscule chocolat.
C'est ça.
Donc, ça, c'est vraiment quand on a envie de se faire plaisir sans se dire, derrière, je pourrais rien manger parce que j'aurais plus faim ou quoi que ce soit. Donc, il y a ce côté-là.
C'est ça, on est vraiment sur la petite douceur.
Ouais.
Ni pâtisserie, ni chocolat, un petit objet hybride. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, ça plaît beaucoup, effectivement, on distribue nos produits dans des cafés. Ça marche bien parce que soit ça va être dans un coffee shop, bah, ça va être soit la part de cake, soit le cookie.
Il n'y a pas
cette option. Et ça marche assez bien dans ce sens-là, effectivement. Petite douceur, quoi.
Ouais, exactement. Alors, je pose toujours cette question de est-ce que pour toi, la gourmandise, on dit souvent aux enfants, et peut-être que ta grand-mère te le disait ou pas, que la gourmandise était un vilain défaut. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Pourquoi on dit ça?
Je ne comprends absolument pas. Je n'adhère pas du tout. Au contraire, je trouve ça assez... je trouve que c'est une très belle qualité d'être gourmand. Encore une fois, moi, ça m'évoque l'imaginaire, c'est des souvenirs, c'est je sais pas. Mais après, c'est ma vision. Je suis une amoureuse du sucré, donc je suis pas très objective. Mais pour moi, c'est véritablement, ça ancre des souvenirs. Il y a quelque chose de partage. Alors bon, il y a des gens qui pourraient dire ça sur le salé aussi. Moi, j'ai peut-être cette vision-là de la pâtisserie, mais ça évoque tellement d'autres choses, la gourmandise, que juste je vais manger un paquet de gâteaux. Ça évoque tellement d'autres choses que pour moi c'est une vraie qualité. Que j'ai. C'est peut-être pour ça, je suis très gourmande, donc je défends cette qualité. Mais non, au contraire, je trouve que c'est vraiment la douceur, c'est quelque chose que je ne comprends pas.
Il y a peut-être un côté aussi dans la gourmandise de lâcher prise,
ouais.
De perte de contrôle de soi, et c'est peut-être ça qu'on essaye de réprimander en disant c'est un défaut, parce qu'effectivement, quand on peut dire qu'on se lâche un peu et on devrait finalement pas dire ça parce que ça veut dire que ce serait un problème. Et là, on revient à ce qu'on disait sur l'orthorexie tout à l'heure et sur les choses, les schémas qu'on peut se mettre par rapport à ça.
Exactement. Moi, je trouve que c'est problématique de dire ça parce que ça apporte effectivement cette notion de culpabilité. Voilà, comme tu dis, on se lâche,
allez, le craquage.
Voilà, je craque, je ferai du sport après.
En fait, non.
Et pour avoir du coup eu des gros troubles alimentaires à un moment donné dans ma vie, où évidemment, ce qui saute, c'est le sucré, c'est l'ennemi, c'est les glucides, c'est etc. La gourmandise n'a plus sa place. Et aujourd'hui, on est dans une société un peu contrastée, mais où on va quand même faire culpabiliser autour de ça, alors que... Et moi, du coup, quand j'étais, je me privais de toutes ces choses-là, c'était une obsession. Du coup, je pensais qu'à ça. Et effectivement, c'était complètement déraisonnable. Quand je craquais, je craquais trop. Parce que du coup, j'enlevais ce rituel du quotidien qui peut être totalement OK, qui est totalement OK, mais je l'enlevais par peur, justement, parce que je me disais, ça, j'en ai pas besoin. Ouais, j'ai besoin de manger, donc j'ai mangé du salé, parce que ça, j'en ai besoin pour fonctionner.
Voilà. Mais on a besoin de glucose aussi pour que notre cerveau fonctionne.
Et... C'est ça, et ouais. on oublie complètement ça, en fait, déjà que notre corps en a besoin. Mm. Et à partir du moment où j'ai réussi à me sortir de tous ces schémas de pensée, que j'ai réintégré la gourmandise dans mon régime, dans mon quotidien, j'ai retrouvé une relation complètement saine avec, en fait.
Beaucoup donc, plus saine à la nourriture.
C'est ça qui est dangereux, je trouve, avec cette notion de culpabilité qui, est, moi, qui m'insupporte. Et je sais que c'est un peu tendance de dire guilt free, machin, se faire plaisir sans culpabilité, mais c'est... On ne se rend pas compte en fait, que ça peut être vraiment nocif sur le long terme. Pas forcément avoir un impact direct, mais ça nous met des idées en tête qu'on ne voit même pas venir jusqu'au jour où on a peur de tout. On a diabolisé toutes ces choses-là et c'est sorti de notre quotidien. Mm. Et après, ça, effectivement, ça peut devenir une obsession parce qu'on ne peut pas... Sauf des personnes peut-être qui n'aiment pas le sucré, ça j'en ai aussi autour de moi et pour le coup...
Oui, mais ça peut être... en ce moment, c'est haro sur le sucre parce qu'il y a des gens qui vendent des livres qui... marche très bien et voilà, mais il y a 20 ans c'était pas de gras.
Et puis
maintenant on dit ah mais oui mais il y a des acides gras et c'est très bon, il faut manger du beurre, etc.
Il y a des régimes basés sur du gras.
Voilà, le régime keto il y a 30 ans personne y aurait cru,
bien sûr,
et voilà, mais parce que c'est des tendances, mais de toute façon il y a aucune logique à enlever complètement un groupe d'aliments de son alimentation.
Et c'est ça qui est dangereux, c'est des tendances, mais bon, c'est des tendances qui perturbent qui perturbe les gens.
L'intuition qu'on devrait avoir par rapport à...
On perd ce rapport-là. L'alimentation est devenue complexe, en fait, aujourd'hui dans nos sociétés. Mais encore une fois, à tort et à raison, parce que c'est vrai qu'on fait aussi n'importe quoi dans l'alimentation.
Et on nous donne aussi n'importe quoi à manger.
Ça, c'est véridique. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est très dur. Enfin, j'en parlais, on a fait un atelier avec une naturopathe qui s'appelle Marine Constantu il y a quelques jours. Et c'était très important pour moi de faire cet atelier autour du sucre. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont peur du sucre et qui viennent me poser des questions. Est-ce que combien de calories et j'entends complètement ces craintes. Moi, je suis pas naturopathe. J'ai ma vision par rapport au sucre, donc je leur réponds de la meilleure manière possible. Donc j'ai organisé ça avec Marine pour qu'on pose. Voilà, j'en parle parce que du coup, son approche est juste pleine de bon sens. C'est juste du bon sens.
Oui, on a un peu perdu ce bon sens paysan.
C'est ça. Marine, par exemple, elle diabolise absolument pas le sucre. Elle nous dit que c'est nécessaire. Par contre, effectivement, faire certains choix plus que d'autres, etc. Mais on a perdu complètement notre rapport de bon sens et de suivre notre intuition. Voilà. Oui. Moi, à partir du moment où j'ai plus diabolisé, je sais que si je craque et que je mange un paquet de cookies cet après-midi, mon corps n'aura pas envie demain d'une grosse dose de sucre. En fait, c'est un rapport qui se fait naturellement, mais qui est compliqué quand on a des dogmes autour de nous imposés.
C'est très paradoxal, c'est en même temps il faut être déculpabilisant, mais en même temps il faut plus manger de sucre. Et peut-être que dans 10 ans, on aura.
Bien que le sucre, c'est pas mal, il y aura des.
On a dit aux gens de manger des tas de protéines, et puis après, on a dit que c'était très mauvais de manger trop de protéines. Au final, il y a trois grands groupes, il faut essayer de respecter. Et de pas suivre les gourous, en fait. Je pense que c'est ce truc-là aussi des gens qui ont besoin d'un guide, en fait, pour prendre des décisions à leur place. Chacun devrait plus s'écouter.
Parce que je pense que juste les gens sont perdus. Honnêtement, moi, quand j'étais dans ces problématiques-là, que je regardais un peu tous les régimes possibles, inimaginables, j'étais perdue, en fait. Parce que si t'écoutes chaque régime, par exemple, manger une banane au petit déjeuner, t'en as, ils vont dire c'est formidable, d'autres, ils vont dire ah non, c'est le diable, d'autres, ils vont dire ok, mais pas plus d'une par semaine. Enfin, à la fin, tu sais plus. Et puis, si t'écoutes tout, vraiment, à un moment donné, j'étais face à un point où je me suis rendu compte, mais en fait, je peux rien manger. Si t'écoutes tout ce qu'on te dit.
Si tu rassembles tout.
À un moment donné, rien n'est bon. Parce que chacun sa théorie.
Donc, pas simple, mais je pense que revenir à un peu plus d'intuition et de confiance en soi sur ce qu'on est capable. Moi, je suis souvent épatée par. Alors, je suis aussi très gourmande et j'ai deux enfants. Et parfois, ils ont très envie de goûter et parfois, ils n'ont pas envie. Non, j'ai pas faim, en fait. Il y a pas de question, en fait. Ils mangent pas, quoi, parce qu'ils ont pas faim. Mais bon, il y a aussi cette question d'éducation. Avant, on forçait les enfants à finir leur assiette.
Oui.
Aujourd'hui, ça évolue aussi un petit peu par rapport à ça. Donc, c'est peut-être qu'on on reprend un chemin un peu plus naturel avec aussi moins de grande distribution, moins de choses comme ça. Enfin, je l'espère en tout cas.
Ça, pour le coup, ouais, je suis pour.
Alors, je te parlais du coup de mes enfants, ça fait une bonne transition vers toi, enfant. Donc, j'ai cru comprendre que tu étais déjà bec sucré, dit que tu faisais des gâteaux avec ta grand-mère. C'est elle qui t'a transmis cette passion alors?
Oui, ma grand-mère cuisine beaucoup, pas que le sucré pour le coup, elle est vraiment cuisine de tout le temps. Elle est très bonne cuisinière et je passais, elle habite dans le sud-ouest, chaque été on y allait pendant 2 mois avec mon frère. Et elle a une bibliothèque, la bibliothèque magique, où elle a plein de livres en fait, elle récupère plein de recettes dans les magazines et elle en crée des livres avec ça, ouais,
d'accord.
Et du coup, mais c'est un grand bazar, mais un grand bazar où on a envie de piocher tout et de tout tester. Et en fait, chaque été, effectivement, on pâtissait. C'était plus la pâtisserie que j'allais faire avec elle, pour le coup, tout le temps. Alors, on avait des recettes phares, comme c'était du riz au lait, par exemple. Ouais. Très douée dans le faire du riz au lait, des crèmes aux œufs, je me souviens, des beignets, un fameux gâteau au chocolat qu'on faisait chaque été. Et ça reste un souvenir très... J'adorais faire ça. J'adorais faire ça avec ma grand-mère. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est qu'au-delà de l'aspect sucré, de pâtisserie gourmandise, c'est que c'était le partage, le moment vraiment de partage que j'avais avec elle. En plus, alors, on faisait quelque chose de manuel. Ma grand-mère est très manuelle, elle est très... c'est une grande artiste, donc à chaque fois, on faisait plein de choses avec elle, au-delà de la cuisine. Mais de faire quelque chose de manuel avec ma grand-mère, que j'aime très fort, je ne sais pas, il y avait quelque chose... Et j'ai toujours ce sentiment qui m'accompagne, voilà, même aujourd'hui, à 32 ans. Enfin, c'est ça pour moi, la pâtisserie. Et après, de le manger ensemble, de manger la moitié de la pâte de gâteau crue avant même de le
cuire. Base.
Enfin, voilà, c'est tous ces petits moments-là qui sont assez... qui, moi, en tout cas, sont ancrés via la pâtisserie.
Et c'est ça, tes premiers souvenirs, du coup, sucrés.
Ah, c'est mes premiers souvenirs.
Ces gâteaux avec elle.
Ouais, complètement.
Et quand, du coup, quand tu y repenses, ça t'évoque quoi
Bah, c'est vraiment nostalgie.
Ouais.
D'un temps perdu.
Voilà, de l'insouciance.
De quand tout était léger. Non, ouais, beaucoup de nostalgie. C'est quelque chose d'assez chaleureux, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'accompagne. On a eu d'autres moments comme ça, hein, mais c'est vraiment quelque chose de... Enfin, quand je le vois aujourd'hui, je me dis, ça a été un point de départ, quoi, d'avoir cette personne-là dans ma vie.
Rétrospectivement.
Bien sûr. Ouais. Ça a été vraiment une petite graine, en fait, qui a été plantée très jeune. J'aurais pu ne pas faire de pâtisserie. J'étais pas du tout censée faire de la pâtisserie. Ça arrivait plus tard dans ma vie. Mais comme quoi, cette petite ça graine résonnait. Avait été plantée à un moment donné. Donc, je le vois comme ça, quoi.
Ouais. Bon, message pour toutes les personnes qui vont être des grand-mères. N'oubliez pas de faire de la pâtisserie avec vos petits-enfants parce que j'en rencontre beaucoup qui en parlent.
C'est assez connu, effectivement.
Ou d'autres choses. Mais en fait, le partage avec les grands-parents... de manière générale, c'est des moments un peu différents pour les enfants. On n'a pas le cadre des parents.
C'est pas pareil. C'est pas pareil.
Il y a un cadre, mais qui est plus lâche quand même.
Oui, et puis c'est les vacances en plus. Ouais, voilà. Donc vraiment, pendant 2 mois, c'est... Et encore une fois, je parle de pâtisserie, mais ma grand-mère, elle fait de la terre, de la céramique.
Oui, donc le côté artistique, tu le partages en général avec elle.
Exactement, moi c'est ma grand-mère qui m'a un peu... après je pense que clairement je suis née avec l'envie d'être manuelle et de faire plein de petites choses, c'est vraiment ma personnalité, mais de grandir avec une grand-mère comme ça, aujourd'hui par exemple, juste pour préciser, je ne pourrais pas faire un métier qui n'implique pas le manuel et la création, ça serait impossible. Oui. Et c'est elle un petit peu qui m'a inculqué ça à travers plein de pratiques différentes, dont la pâtisserie.
Oui. Bon, écoute, merci pour d'avoir partagé avec moi tous ces souvenirs. Donc, généralement, je demande si on fait soi-même ses gâteaux. Et j'imagine que, évidemment, c'est toi qui crées tes lunes et que tu continues d'en fabriquer régulièrement. Alors, quand je t'ai proposé d'échanger dans le cadre de ce podcast, je t'ai demandé, du coup, quel était ton dessert d'enfance. Et si tu as écouté un petit peu d'autres épisodes, tu sais ce qui va se passer maintenant ? Oui ? Tu sais ou... Non ? Ah non ! Et bien du coup, on va passer, je vais récupérer quelque chose, on va passer à une partie un peu plus pratique.
Ok.
Alors du coup, Andrea, la deuxième partie, je viens toujours avec une petite partie pratique à déguster.
Ouais.
Et alors, j'ai pas eu beaucoup d'indices sur ce fameux gâteau au chocolat. Enfin, tu m'as dit fondant au chocolat de ta grand-mère et...
j'avais pas la recette.
Et je n'avais pas la recette. Donc, voilà, c'est toujours le moment où j'amène quelque chose à déguster. Et c'est un fondant au chocolat. J'ai cherché des différentes recettes sur Internet. Et j'espère que ça t'évoquera un petit peu. Alors, j'ai volontairement pas pris une recette sans gluten et sans sucre, etc. Parce que j'imaginais que c'était pas ce que faisait ta grand-mère.
Pas du tout.
Alors, il n'y a pas trop de farine dedans. Je crois que dans l'ensemble du gâteau, et je crois que j'en ai fait 8, il y avait 40 grammes de farine.
Ok.
Donc, c'est pas beaucoup.
Ok. Il y a
quand même du sucre. Il y a du beurre, pas mal. Okay. Et il y a pas mal de chocolat, surtout.
Ok.
Donc, ben écoute, je vais te laisser déballer et me dire ce que t'en penses. Et si tu veux le mettre sur une assiette ou... Donc, j'imagine, ce sont peut-être des assiettes, du coup, que tu as faites, celle-ci ?
Non, c'est Marion Gros.
Ah oui, je connais.
Céramiste.
Ouais.
Avec qui je travaille beaucoup.
Et donc, toi, tu fais aussi de la céramique
Non.
Non ?
Non. Alors, pour le coup, j'ai fait beaucoup de choses. La céramique, je ne m'y suis jamais vraiment mis. J'adorerais.
Voilà.
Très beau.
Alors, est-ce que ça te plaît ? Est-ce que ça te rappelle un petit peu ? Alors, pas forcément la forme, parce que je l'ai fait en petit pour pouvoir l'emmener.
C'était à peu près ça. C'est
d'accord.
À peu près ça, tout à fait. Et je pense que sur la recette, on n'est pas loin.
Ouais.
Beaucoup de chocolat.
Oui, il y a beaucoup de chocolat. D'ailleurs, ouais. C'est plutôt... Finalement, je me suis dit que c'était plutôt une recette... Enfin, c'est une recette assez simple. Il y a pas mal d'œufs, quand même.
Ouais.
C'est ça qui fait la différence, hein, qui compense un petit peu pour la tenue, je pense, du reste.
Ouais.
Est-ce
ouais.
que ça sent comme quand tu étais
ouais.
petite.
C'est drôle, ouais. hein. Comme quoi, ouais, c'est vraiment ça.
Ouais. Alors, si tu veux, on peut faire une pause pour que si tu veux aller chercher un
ouais.
couteau ou une cuillère.
Ça marche.
Est-ce que la texture s'approche un peu
La texture est très similaire. Peut-être un tout petit peu plus...
C'était un peu plus cuit, ce que tu faisais ?
Peut-être qu'il y avait plus de farine dans la recette. Du
ouais.
coup, il y avait un côté un petit peu plus friable, un peu moins fondant.
D'accord.
Mais on n'est pas loin.
Et alors, c'est tout un art entre le mi-cuit, le fondant, le moelleux.
Pas la même chose, ouais.
Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai essayé de faire très, très attention à la cuisson. Bon, je te laisse déguster et me dire si ça...
Ouais, mais l'odeur, c'est exactement
ouais, c'est ça.
C'est drôle. Hein, c'est...
Ah, je suis contente.
C'est vraiment... Ouais, c'est ça.
Alors, du coup, elle goûte. Est-ce que le goût...
Ouais, c'est ça.
Ça approche un peu...
C'est drôle, hein. Ouais, peut-être un tout petit peu plus cœur fondant. Que celui qu'on faisait.
Ouais.
Mais sinon, c'est exactement ça.
D'accord. Bon, eh ben, je suis contente parce que c'était un peu la... Voilà. Donc, c'est vraiment très chocolaté. Et j'ai, pris
ça,
un,
ouais.
et j'ai pris un chocolat à 66%.
Ouais.
Voilà, parce que je voulais pas non plus aller trop dans
trop
le chocolat,
saturé,
parce que
ouais.
je me suis dit que peut-être à l'époque, avec ta grand-mère, c'était
ouais,
pas du chocolat
était...
de couverture,
non.
mais plutôt du chocolat du commerce classique.
Exactement.
Donc voilà, bah, écoute. Ça pourra faire ton petit goûter.
Très bon.
C'est validé. Ça te rappelle quoi alors quand... Est-ce que ça ressemble à l'enfance ?
Bah, ça me rappelle vraiment... En fait, c'est une recette qui est un peu spéciale où effectivement, je n'ai pas la recette. C'est vraiment pour ça que je t'avais dit, je n'avais pas la recette parce que ça faisait partie des magazines découpés. Je ne sais même pas si ma grand-mère l'a toujours d'ailleurs. Et comme je te disais, c'est un gâteau qui est assez... C'est pas tant pour le gâteau en soi. C'est pas parce que j'ai par exemple... Je ne devrais pas le dire, mais je ne suis pas fan de chocolat.
Oups.
J'aime bien,
ouais.
mais c'est pas, j'ai pas une, c'est pas ce qui va me faire saliver.
C'est, t'as pas une addiction
le
pour le chocolat,
ouais, voilà, comme ouais. certaines personnes ont.
Oui.
Moi, c'est pas que j'aime pas, mais c'est vrai que c'est pas le truc qui va m'attirer le plus au début. Et donc c'est pas tant la recette, mais c'est ce que symbolisait la recette. Comme je te disais, le gâteau, cette recette-là, s'appelait le Charles Cake. C'est comme ça qu'elle était nommée dans le magazine. Et nous, on l'avait renommé le Nicolas Cake. Qui est le nom de mon frère, parce que son anniversaire tombait en juillet, pendant les vacances, et à chaque fois, on faisait cette recette pour son
d'accord.
anniversaire. C'était son gâteau. Alors, je ne sais même plus pourquoi, parce que je ne crois pas non plus qu'il soit fan de chocolat, mais c'était cette recette qu'on faisait à chaque fois. Et je me souviens même, pour dire à quel point on était obsédés avec ce gâteau, qu'un été, mon frère n'était pas avec nous, et on avait quand même cuisiné le gâteau avec ma grand-mère, et on
d'accord.
l'avait envoyé par la poste.
Ah oui, ça va loin quand même.
Pour lui envoyer.
Et qu'il est bien
marquer,
ce gâteau.
Bon, c'est arrivé dans un état.
Oui.
Le gâteau n'était plus. C'était. Voilà. Mais. C'est, je sais pas. C'est
l'intention était
de...
là, quoi.
Ouais, c'est une histoire autour de ce gâteau qui m'a vraiment marquée. Et c'est pour ça, c'est vraiment un peu la symbolique que je racontais autour de la pâtisserie. C'est parfois, c'est même plus le goût. Parfois, c'est juste. voilà, ce que ça symbolise. Ouais, et ouais, là, c'est un moment, un anniversaire, faire plaisir à mon frère, et faire des choses peut-être un peu bêtes pour lui faire plaisir et d'envoyer par la poste. Mais enfin, voilà, donc ce gâteau, bah oui, ça me rappelle ça, en fait.
Mais c'est vrai que ça n'est pas arrivé encore qu'on me demande des gâteaux très compliqués. Des gâteaux d'enfance. Et il y a toujours des choses comme ça. Parfois, ça peut même être... Enfin, j'ai eu Adeline Glibota, qui t'a reçue dans son podcast, Girls in Food. Elle, son gâteau d'enfance, donc ça passera avant toi, donc je peux le dire, je ne spoil rien. C'est une Charlotte recette Tupperware avec des boudoirs du commerce, du Gervita, ces espèces de fromage blanc du commerce, un peu mousseux, et des poires au sirop en conserve, en fait. Donc ça n'a vraiment rien de... Sur le papier, c'est pas gastronomique, mais en vrai, quand on le fait, c'est super simple et c'est super bon. Et il y a ce côté très simple, des choses de l'enfance qui évoquent un moment, et c'était un gâteau que sa maman faisait, et dans lequel elle mettait aussi beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, et qu'elle prenait le temps dans un emploi du temps très chargé pour faire ce gâteau pour
c'est
eux, quoi.
Ouais, donc, complètement. Et c'est souvent là les moments les plus forts, en fait. Des choses très simples, mais qui ancrent, qui capturent beaucoup d'autres choses, effectivement. Ouais.
Et du coup, ce qui est chouette avec la pâtisserie, c'est qu'une fois qu'on a fait le lien, on peut, quand on remange ce gâteau, on est transporté. D'où le nom du podcast La Madeleine, parce qu'il y a cette fameuse Madeleine de Proust qui fait qu'il est transporté à ce moment-là, quand il dégustait cette Madeleine. Donc, j'espère, à ma petite échelle, que je t'ai renvoyé un petit peu avec ta grand-mère.
Un peu de douceur, ouais. Complètement.
Bon, c'est et que... Bah, écoute, ça me fait très plaisir. Et puis, j'étais vraiment à l'aveugle avec ce gâteau, donc je suis contente quand même. Je mettrai la recette, comme d'habitude, dans la newsletter qui sortira après l'épisode. Et comme ça, c'est vraiment tout simple à faire. Et faut juste être pas très loin de son four et être vigilant sur la cuisson.
Ah voilà. Oui, c'est le challenge. Voilà. C'est simple, mais ça peut être un gâteau complètement différent.
Voilà. Je ne l'ai pas mis sur le tien, mais sur ceux que j'ai gardés pour mes enfants, j'ai mis de la fleur de sel dessus.
Ok,
et
sympa.
C'est pas mal. Ça pimpe bien le gâteau, mais je me disais que probablement que ta grand-mère mettait pas de fleur de sel dessus, parce qu'avec les enfants, parfois on ne fait pas trop de trucs un peu exotiques comme ça.
T'as misé un peu de sucre glace.
D'accord.
Et parfois, justement, on faisait des espèces de lettres qu'on découpait en papier pour faire un pochoir.
Pour faire un pochoir.
Et on mettait de la confiture. Pour faire des pochoirs pour écrire Nicolas.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça qu'on le décorait.
Alors, c'est drôle. En plus, on parle beaucoup de ton frère Nicolas, dont c'est la fête aujourd'hui. Hein, comme ça, on va vraiment situer. C'est la Saint-Nicolas.
Pas du tout. Mais comme quoi.
C'est le 6 décembre. Alors, oui, le commun des Français n'a pas de réflexe sur la Saint-Nicolas, mais moi qui viens de l'Est de la France, c'est une fête importante.
Ouais.
Donc, n'oublie pas de souhaiter Saint-Nicolas à ton frère.
Non, je m'en souviens.
Bon, écoute, voilà, merci vraiment pour nous avoir partagé ça. Avant de passer à la dernière partie ping-pong, des questions un peu rapides, est-ce que tu peux me décrire un peu un moment idéal de dégustation de gâteau pour toi ? Si là, je pouvais t'emmener exactement où tu veux, avec le gâteau que tu veux, dans le cadre que tu souhaites, ce serait où ?
Ça doit être un restaurant ou ça peut être...
Non, ça peut être chez ta grand-mère, dans ton salon, vraiment. Pour toi, quel est le moment idéal pour profiter d'une pâtisserie ?
Ouais, ce que j'adore généralement, c'est vraiment être chez moi, tranquillou, avec un petit film ou quelque chose comme ça, mais vraiment dans un moment plus intime, dans mon cocon.
Détente.
Où je vais vraiment profiter du dessert, parce qu'en fait, je mange pas tant de pâtisserie que ça. Aujourd'hui, enfin, je suis très bouche sucrée, mais je sais pas non plus... ça reste quand même des petits moments de plaisir bien choisis. Je sais pas, j'ai une espèce de truc sacré autour des desserts. Justement aussi, je pense, par rapport à mon parcours d'avant, où ça a été un peu... Donc, je me réapproprie aussi mon rapport à la gourmandise. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que je vais pas, par exemple, prendre une part de flan au déjeuner à manger rapido.
D'accord.
Je trouve ça dommage. En fait, c'est un sacrifice de faire ça. C'est plus des moments vraiment bien choisis, assez particuliers, où je vais prendre le temps de regarder ce que je mange. Donc, ça va être des moments comme ça. Après, ça peut être aussi à l'occasion de... Parfois, je retrouve une copine et on va aller... J'adore aller chez Tomo Pâtisserie, où j'aime bien... J'adore la pâtisserie japonaise. Voilà, le petit format, etc. Oui. Enfin, il y a quelque chose d'assez intéressant.
La finesse.
La finesse, ça m'a beaucoup inspirée pour Luna. Autour d'un thé, une petite douceur. Et là aussi, c'est assez parfait parce que je suis moins peut-être concentrée sur le dessert, mais ça accompagne un moment.
Le cadre,
c'est un peu les deux moments.
D'accord.
Mais ça va être plus comme ça que je vais apprécier.
D'accord, oui, non mais parfait. Alors du coup, on va passer aux questions ping-pong. Ton gâteau préféré aujourd'hui ?
Le flan.
Flan vanillé ?
Ouais, j'adore le flan.
Celui que tu as réussi le mieux ?
Crumble.
D'accord. Ah, ta première à me citer. Ton parfum ou ta saveur préférée ?
La noisette. Praliné. Ah.
Tu pourrais pas te passer de praliné, mais tu pourrais te passer de chocolat ?
Oui.
Ouais.
Clairement.
Le meilleur repas de ta vie ? Celui qui t'a procuré le plus d'émotions ?
Ah, je l'avais déjà cité, mais c'est Ferme aux Grives de Michel Guérard.
D'accord.
C'est pas tant le repas, c'est le moment, le lieu, qui est magnifique. Une vieille grange, vraiment dans son jus, très chaleureux. Et c'est les ambiances vraiment que j'aime. Et,
ok, donc le restaurant de Michel Guérard.
Ouais, et c'était, je l'avais fait à mes 20 ans. Et c'était très traditionnel. À la, à la fin, on a mangé en dessert, c'était une charlotte aux fraises.
Ouais.
Très classique. Mais je sais pas, je me souviens toujours de ce repas comme un des plus jolis moments. Voilà.
D'accord. Ta pâtisserie favorite, le lieu ? Bah, du coup, j'imagine que tu vas peut-être me dire
Tomo, pâtisserie, du coup. Ouais, j'ai l'ai découvert honnêtement il n'y a pas longtemps. Mais,
ouais, c'est très chouette.
Qu'est-ce que c'est bon.
On mettra l'adresse aussi dans les notes de l'épisode.
J'adore.
Au restaurant, t'es plutôt entrée plat ou plat dessert ?
Plat dessert.
Le clafoutis avec ou sans les noyaux ?
Avec.
Pain au chocolat ou chocolatine ?
Chocolatine, évidemment.
Ah,
évidemment.
Ça y est, j'en ai trouvé une.
C'est rare, hein.
Ouais. Surtout à Paris, de faire son coming out sur la chocolatine.
C'est dur, je sais. C'est le grand débat.
Chocolat noir ou chocolat au lait ?
Ah, chocolat au lait.
Ouais, du coup.
Ouais.
Si tu n'es pas fan de chocolat, effectivement. En pâtisserie, recette traditionnelle ou revisitée ?
Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Je dirais traditionnelle.
Traditionnelle, quand même.
Ouais.
Texture croquante ou texture moelleuse ?
Moelleuse.
Chocolat ou fruits ?
Fruits.
Le meilleur pâtissier ou top chef ?
Le meilleur pâtissier.
Galette frangipane ou brioche des rois ?
Frangipane.
Dommage que je puisse pas expliquer les yeux que tu viens de faire. Quoi.
C'est
l'évidence. Voilà. Gâteau basque, crème ou cerise ?
Crème.
Ta préférence entre la pâte feuilletée ou la pâte sablée ?
Sablée.
Beurre doux ou beurre demi-sel ?
Demi-sel.
C'est aussi clivant. Hein.
Ouais.
Presque autant que la chocolatine. Ouais. Hein. Espresso ou café de spécialité ?
Café de spécialité.
Nutella ou nocciolata ?
Nocciolata.
Et si toi, tu étais une pâtisserie ?
Ouh, un flan au matcha.
Ah ! Et alors, pourquoi tu te définirais comme un flan au matcha ?
Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça.
Là, ça m'évoque la tradition, mais avec un petit twist.
C'est ça, alors que je viens de dire l'opposé juste avant, mais ça serait un peu ça. C'est que j'adore, par exemple, le cannelé, pour moi, ça se mange nature, tel quel. Enfin, je ne suis pas très fan des grands classiques revisités. Donc, ça serait un peu ça. Ça symboliserait un peu le flan, qui est un grand classique, qui est bon, réconfortant, avec le matcha. Ça symbolise aussi mon côté aventureux dans les ingrédients et voilà.
Et le plaisir du Japon. Du coup, le
plaisir
goût,
du Japon, effectivement.
Le goût
qui
du
m'a
Japon,
pas que. Voilà, le Japon fait partie des pays qui m'a beaucoup inspiré, effectivement, pour leurs pâtisseries, leurs ingrédients. Donc, oui, hyper intéressant. Très différent de ce qu'on retrouve en France. Donc, voilà, c'est un peu, peut-être l'union de deux mondes, que je trouve assez sympa.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Andrea. Je mettrai toutes les informations, si on veut te retrouver, c'est sur Insta, Luna Création.
Sur Insta, sur notre site, pop-up quand on en a. Et on a souvent des actualités, donc le mieux, c'est vraiment de nous suivre sur Insta où on raconte tout ce qui se passe, tous les nouveaux parfums.
Génial.
Et voilà.
Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce moment avec toi et le temps passé. Et puis, bon courage pour la suite, plein de lunes, le plus possible à découvrir avec toi.
Merci à toi.
Merci, au revoir.
Merci.
J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré et donné l'eau à la bouche. Vous pouvez retrouver mon invité sur ses réseaux sociaux. Tout est indiqué dans les notes de l'épisode. Pour recevoir la recette de la spécialité dégustée, abonnez-vous à la newsletter sucrée d'Honoré en bas de page du site honorevousguide.fr. Pour que je puisse vous proposer toujours plus de personnalités inspirantes, aidez-moi à rendre visible le podcast La Madeleine sur les plateformes en laissant un avis 5 étoiles. Et bien sûr, parlez-en autour de vous. Il y a forcément beaucoup de gourmands. Merci beaucoup. Et enfin, si vous souhaitez échanger avec moi sur le podcast, la pâtisserie ou autre, rendez-vous sur Instagram sur le compte Honorez-vous Guide. À très vite.